Voilà, je suis bien conscient qu'il y a plusieurs personnes ici aujourd'hui qui arrivent pour le dernier épisode d'une série, parce que cela fait depuis le début du mois de septembre que nous regardons le prophète Amos, donc un prophète qui a prophétisé à peu près, disons, 700 ans avant Jésus, un petit peu plus, 7 siècles avant Jésus. Donc ça fait partie de l'Ancien Testament. J'ai encore ici quelques feuilles, si ça vous intéresse, qui résument la chronologie de l'Ancien Testament. Moi, j'en ai une que je laisse dans ma Bible parce que ça permet de situer des fois les événements de l'Ancien Testament. Vous pouvez me le réclamer à la fin du culte. Alors, je vais resituer Amos, pour ceux qui n'étaient pas là, parce qu'on arrive à la conclusion. Amos était, on va dire, agriculteur. Ce n'était pas un prophète professionnel, il le dit lui-même. Et il était envoyé par Dieu dans un autre pays. Je dis un autre pays, mais pas tout à fait un autre pays. Parce qu'en fait, le peuple d'Israël à cette époque-là était divisé en deux royaumes. Le royaume du sud, avec la capitale Jérusalem, et le royaume du nord. Il y avait une dissidence, donc ils ont formé deux pays avec un seul peuple, si on veut. Et Amos était envoyé vers le nord avec un seul message, que je vais dire rapidement: repentez-vous ou vous serez déportés loin du pays. Donc, repentez-vous, ça veut dire changer de pensée, changer de comportement. Et justement, il les a appelés à obéir à Dieu. Il a dénoncé le fait qu'ils exploitaient les pauvres, ils dénonçaient leur immoralité sexuelle, ils dénonçaient la façon dont ils trichaient avec des poids sur la balance qui étaient faux, donc des mesures qui étaient fausses. Il a dénoncé leur idolâtrie, enfin, il a dénoncé beaucoup de choses en disant: si vous ne changez pas de comportement, donc si vous ne repentez pas, Dieu va vous emmener loin. Et en fait, c'est ce qui s'est passé quelques années plus tard. C'est sur la feuille de chronologie en 722 avant Jésus-Christ, où ce royaume du Nord a été emmené loin de son domicile, on va dire, jusqu'en dans le pays des Assyriens, en Mésopotamie. Et donc là, on arrive à la fin de cette prophétie, où les 8 premiers versets qu'on va lire, c'est un peu la conclusion de cette prophétie, et les 5 derniers versets, une promesse beaucoup plus optimiste sur la suite des choses. Donc c'est un petit peu la surprise à la fin, parce que jusque-là, il y a eu beaucoup d'appels à la repentance, beaucoup de dénonciations, beaucoup d'accusations, beaucoup de reproches, mais le prophète termine avec un dernier mot qui est empreint d'optimisme. Alors je vais lire d'abord les versets 1 à 8. Mais je rappelle, donc pour ceux qui étaient là, d'abord au chapitre 7 et 8, 4, pourquoi j'ai dit 3, 4 visions d'Amos: la vision des sauterelles, la vision de la sécheresse, la vision du fil à plomb, la corbeille de fruits mûrs, pour dire: attention, je vous envoie les sauterelles pour manger votre récolte, pour vous amener à vous arrêter et à penser: qu'est-ce que Dieu veut de moi? La vision de la sécheresse: pourquoi, Seigneur, il ne pleut pas? La vision du fil à plomb, donc pour voir si le bâtiment était droit. Et puis la vision de la corbeille de fruits mûrs pour dire à quel moment on récolte les fruits, bah, quand ils sont mûrs et le peuple est mûr pour le jugement. Maintenant, on arrive au chapitre 9, une vision du châtiment d'Israël, sauf une petite partie du peuple, ce qu'on appelle le reste. Donc, bon, je vais lire d'abord les versets 1 à 8. Je vis le Seigneur qui se tenait sur l'autel et il dit, frappe les chapiteaux et que les seuils s'ébranlent et brise-les sur leur tête à tous. Je ferai périr le reste par l'épée, aucun d'eux ne pourra se sauver en fuyant, aucun d'eux n'échappera. S'ils pénètrent dans le séjour des morts, ma main les en arrachera. S'ils montent aux cieux, je les en ferai descendre. S'ils se cachent au sommet du Carmel, je les y chercherai, je les saisirai. S'ils se dérobent à mes regards dans le fond de la mer, là j'ordonnerai un serpent de les mordre. S'ils vont en captivité devant leurs ennemis, là j'ordonnerai l'épée de les faire périr. Je dirigerai contre eux mes regards pour faire du mal et non du bien. Le Seigneur, l'Éternel des armées, touche la terre et elle tremble, et tous ses habitants sont dans le deuil. Elle monte tout entière comme le fleuve, elle s'affaisse comme le fleuve d'Égypte. Il a bâti sa demeure dans les cieux, et fondé sa voûte sur la terre, il appelle les eaux de la mer, et les répand à la surface de la terre. L'Éternel est son nom. N'êtes-vous pas pour moi comme les enfants des Éthiopiens, enfants d'Israël, dit l'Éternel? N'ai-je pas fait sortir Israël du pays d'Égypte, comme les Philistins de Caphtor et les Syriens de Kir? Voici, le Seigneur l'Éternel a les yeux sur le royaume coupable. Je le détruirai de dessus la face de la terre. Toutefois, je ne détruirai pas entièrement la maison de Jacob, dit l'Éternel. Car voici, je donnerai mes ordres, et je secourrai la maison d'Israël parmi toutes les nations, comme on secoue avec le crible sans qu'il tombe à terre un seul grain. Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée. Ceux qui disent, le malheur n'approchera pas, ne nous atteindra pas. Donc, quelques mots de commentaire, hein, parce que quand on lit un texte de l'Ancien Testament comme cela, et que je la balance un petit peu, il y a beaucoup de choses qui ne seraient pas faciles à comprendre dès la première lecture. Alors, cherchons à comprendre. D'abord, ce châtiment commence même dans le temple. En fait, c'était même pas un vrai temple. C'était un temple où il y avait des idoles. Ce n'était pas le temple de Jérusalem. Dans ce royaume du Nord, qui s'était séparé du Sud, ils ont créé d'autres lieux de culte où ils ont commencé à adorer des idoles. On ne peut pas imaginer quelque chose de pire qu'un peuple qui se posterne devant tes idoles. Le vrai Dieu créateur est là. On a été créé pour le louer. Je suis né pour te louer, hein, il y a un chant qui le dit. Et puis que l'on adore autre chose, c'est tellement ridicule. C'est encore le cas aujourd'hui, parfois. On peut idolâtrer l'argent, sa voiture, sa maison, son sport, tout ce qu'on veut. Et l'Éternel dit, frappe les chapiteaux et le temple s'écroule. Personne ne pourra se sauver en fuyant. Il est inutile de se poser les questions s'il faut le prendre au pied de la lettre ou non. Est-ce que le temple est vraiment tombé? Parce que ce n'est pas le but. Le but, c'est de montrer que toute cette religion, cette fausse religion, va s'écrouler. Et il n'y a aucun moyen d'échapper au châtiment. S'ils meurent, en quelque sorte, ou s'ils disent, je vais mettre fin à mes jours, on n'échappe pas à Dieu. Verset 2. S'ils pénètrent dans le séjour des morts, mais ma main les en arrachera. On ne peut pas échapper à Dieu. S'il monte aux cieux, pour que tu vois la transcendance, la spiritualité, ou je ne sais pas quoi, ça ne sert à rien non plus. S'il se cache au sommet du Carmel, si ma mémoire est bonne, c'est une des plus hautes collines donc en Israël, je les chercherai. S'ils vont au fond de la mer, je leur donnerai aux serpents de les mordre. Si même ils partent en captivité, ce qui est le cas, le Seigneur, il n'échappe pas au Seigneur en partant au loin. On ne peut pas échapper au jugement de Dieu. phrase qui peut sembler ridicule à beaucoup de gens aujourd'hui. Mais cette même réalité est là, même dans la situation du Nouveau Testament, depuis le temps de Jésus. La personne qui a parlé le plus de jugement dans la Bible, dans le Nouveau Testament, c'est Jésus. Il y a le jugement. Et c'est vrai que, comme Jésus a dit à un certain moment, ce sera comme au jour de Noé. Des gens vont acheter, vivre, vendre, se marier, etc. Mais le délai est venu, il y aura un jugement. Et ça, c'est la réalité sombre, mais juste. Parce que si Dieu ne juge pas, il se renie lui-même. Il n'est pas juste lui-même s'il ne punit pas ceux qui font le mal. J'ajoute entre parenthèses que le Nouveau Testament nous montre bien que tous ont péché, que nous sommes de ce nombre. Et si nous sommes sauvés, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs, mais par la grâce de Dieu qui nous pardonne. C'est ça la bonne nouvelle. Ça, c'est l'évangile. Comment est-ce que c'est possible qu'on ne peut pas se cacher à Dieu? Les versets 5 et 6 le montrent. Le Seigneur est le Tout-Puissant. Il est assez puissant pour faire aboutir ce jugement. S'il touche la terre, elle tremble. Je lis en ce moment un livre justement sur la terre. C'est fragile. Hein? C'est fragile. Les écologistes le savent, mais les scientifiques aussi. Hein? Avec les plaques tectoniques qui bougent, avec un petit peu d'atmosphère autour de la Terre, la partie respirable est très peu. Hein? Donc, ce livre dit que si on prend un globe terrestre, donc tout petit comme on peut avoir chez soi, et on met un peu de vernis dessus, bon, le vernis représente à peu près la partie respirable de la Terre. C'est fragile. Mais le Seigneur a bâti sa demeure dans les cieux. Lui, c'est l'Éternel. Et comme on dit dans les cieux, ce n'est pas forcément l'univers tel que qu'on le connaît. Il habite dans cet univers, au-delà de cet univers. C'est le Tout-Puissant. Et c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Et on dit bien, le verset 6, que l'Éternel est son nom. L'Éternel qui veut dire Yahvé, qui veut dire je suis celui qui existe, je suis celui qui suis. Il est à la base de notre existence. Sans lui, il n'y aurait rien du tout. Rien n'existerait. Et il est l'Éternel. Il est capable de faire tout cela. À ce moment-là, comment le peuple d'Israël pourrait-il réagir? Et c'est le problème, on le voit partout dans l'Ancien Testament. Ah ben, nous, on est le peuple de Dieu. Il nous a choisis. Donc, certes, Dieu est grand, Dieu est le juge, mais bon, nous, ça va, on est le peuple de Dieu. Et le verset 7, c'est déjà une petite introduction à la dernière partie de ce chapitre. L'Éternel met les choses à plat. Parce qu'il dit au verset 7, n'êtes-vous pas pour moi comme les enfants des Éthiopiens? Il n'y a pas de différence. Ok, le Seigneur avait choisi le peuple d'Israël pour être le peuple choisi, non pas parce qu'ils étaient meilleurs. Deutéronome chapitre 7 le dit, je lis. Ce n'est pas parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous, qui vous a choisi, que vous êtes le moindre de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main du Pharaon, roi d'Égypte. Et s'il a choisi ce peuple, c'était pour qu'il soit en bénédiction pour le monde entier, pour que finalement son plan de récupération puisse être mis en route pour sauver tous ceux qui mettaient leur confiance en lui. Donc, il n'y a pas de différence. Dieu a choisi un peuple pour être son outil, son instrument. Ensuite, le raisonnement, c'est que, ok, je vous ai fait sortir du pays d'Égypte, c'est toujours le verset 7, n'ai-je pas fait sortir d'Israël du pays d'Égypte, comme les Philistins de Caphtor et les Syriens de Kir. Donc, il y a aussi d'autres grandes migrations, d'autres grands mouvements de peuple. Il paraît que les Philistins ont commencé en Asie centrale, ils ont migré vers la Grèce, la Crète, Caphtor, enfin c'est la Crète. Et ensuite, ils ont quitté là pour venir dans la partie du pays qu'on appelle aujourd'hui la bande de Gaza, donc le pays des Philistins. Israël n'était pas le seul peuple qui avait changé de pays. Et depuis toujours, ça, c'était le cas. Il y a des Scandinaves qui sont arrivés en Normandie, hein, à un certain moment. Hein, c'est pour ça que ça s'appelle la Normandie, les gens du Nord. Il y a, la population du monde est ainsi faite. Donc Dieu dit, ne dites pas parce que vous êtes sortis de l'Égypte que vous êtes un peuple privilégié. Non, non aussi. D'autres pays ont changé aussi. Mais, et c'est là où on va dire que celui à qui beaucoup était confié a plus de compte à rendre, en quelque sorte, parce qu'il dit, mais, verset 8, « Voici le Seigneur l'Éternel a les yeux sur le royaume coupable. » Donc le royaume d'Israël, ils étaient coupables. Et il dit, « Je le détruirai de dessus la face de la terre. » Et ça, là, la fin du verset 8 est quand même important. « Toutefois, je ne détruirai pas entièrement la maison de Jacob. » Il avait déjà dit une première fois, pour ceux qui étaient là, il y a quelques semaines, le chapitre 5 et le verset 15, « L'Éternel, le Dieu des armées, aura pitié du reste de Joseph. » Et au début, quand on voit les premiers écrits de l'Ancien Testament, les écrits de Moïse, quand on est dans le Deutéronome, Nombre, Lévitique, on a l'impression que Dieu traite tout le peuple comme si c'était un seul peuple. Et avec l'apport des prophètes qui sont venus après, on a compris que non, même au milieu du peuple, celui qui fait le bien, celui qui croit en Dieu, ne subira pas exactement le même sort que les autres. On le voit dans Habacuc, quand il dit que le juste vivra par la foi, alors que le reste sera détruit. On le voit, je pense que c'est dans Ézéchiel, où on disait que... je vais le lire. Ézéchiel 18, le verset 4. Toutes les âmes sont en moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont en moi, mais l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Pas tout le monde. Donc si on est conscient de son péché, là j'anticipe un peu encore le Nouveau Testament, si on est conscient, on la demande pardon, on ne mourra pas. Donc cette promesse du reste est vraiment importante. Parce que le verset 10 dit bien, c'est tous les pécheurs de mon peuple qui mourront par l'épée. Et le Seigneur va utiliser les nations, verset 9, comme une sorte de crible. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, parce que nous, on habite en ville au XXIe siècle, on n'a pas forcément tout ça. Mais le crible, c'est une sorte de tamis. Et quand ils avaient fait la récolte, ils mettaient le grain et puis ils secouent. Et puis tout ce qui n'avait pas de valeur tombe entre les mailles en quelque sorte pour ne laisser que le bon grain. Il a dit voilà, je vais vous secouer comme un crible. Et donc ceux qui sont vraiment à moi vont rester et les autres vont disparaître. Donc c'est une image hein, pour dire que c'est ce que le Seigneur va faire. Maintenant, s'il avait terminé là, on aurait dit waouh, c'est pessimiste ce prophète. Qu'est-ce qu'il y a de positif. Mais Amos voit beaucoup plus loin. Il va beaucoup plus loin. Et c'est là les derniers versets de ce prophète que l'on va lire maintenant et qu'il faut retenir parce que ça nous concerne. Je lis à partir du verset 11. En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. J'en réparerai les brèches. J'en redresserai les ruines. Je la rebâtirai comme elle était autrefois, afin qu'ils possèdent le reste d'Édom et toutes les nations sous lesquelles mon nom a été invoqué, dit l'Éternel, qui accomplira ces choses. Donc on va aller jusque-là pour le moment. En ce temps-là, c'est la restauration de la maison de David. J'ai marqué à côté dans mes notes ici, lire 2 Samuel 7, verset 12. Ce que Olivier a lu ce matin, c'est justement cette promesse à David qu'il y aurait une maison qui durerait éternellement. Et on peut dire, mais c'est pas possible. Il n'y a plus de roi en Israël, il n'y en avait plus à certains moments, mais puisque Jésus, en fait, était de la maison de David, c'est le roi, en fait, c'est le royaume qui dure éternellement. Les versets que je viens de vous lire sont cités dans leur totalité, les versets 11 et 12 dans le Nouveau Testament. Parfois, je suis tenté de dire petit prix pour celui qui peut me dire où ça se trouve. Où sont cités ces deux versets? En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David, j'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines. Je le rebâtirai comme elle était autrefois, afin qu'il possède le reste des hommes et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué. Hein? C'est dans les Actes des Apôtres. Voilà, on arrive. En fait, c'était dans Actes 15, le concile de Jérusalem. Alors, j'explique pour ceux qui ne connaissent pas. Au début de l'Église, les apôtres, ils étaient tous juifs, forcément. Tous les disciples de Jésus étaient juifs. Et ils ont commencé à annoncer la bonne nouvelle de la réconciliation avec Dieu, du pardon des péchés, de la vie éternelle en Jésus, donc l'Évangile, au peuple juif, forcément, parce qu'ils étaient en Israël, ils habitaient à Jérusalem. Et puis, bon, ils ont dit. Tout ça, c'est l'accomplissement des promesses, le Messie qui devait venir, annoncé dans l'Ancien Testament. Donc, ils ont annoncé le Messie. Mais petit à petit, Dieu les a obligés, d'une façon ou d'une autre, à commencer à annoncer l'Évangile aux non-juifs. Il y a plusieurs histoires dans les Actes. Même Pierre, qui est allé chez un militaire romain, donc envoyé par Dieu pour annoncer l'Évangile. Jusque-là, c'est très bien. Ils ont dû faire tout un travail spirituel pour dire, cette bonne nouvelle, ce n'est pas uniquement pour le peuple élu de l'Ancien Testament, mais un nouveau peuple élu dans le Nouveau Testament, le peuple de Dieu, l'Église, les chrétiens. Donc, ils ont commencé à prêcher l'Évangile aux non-juifs. Mais un problème a surgi. Un problème difficile, parce qu'il dit, dans quelle mesure maintenant que on prêche l'évangile aux non-juifs, dans quelle mesure faut-il que ces personnes se soumettent à nos coutumes juives? C'est une grosse question. Et certains disaient même qu'il fallait même circoncire les convertis, parce que tous les juifs étaient circoncis. Alors, grosse question. Donc, certains sont partis de Jérusalem, ils sont allés jusqu'à Antioche, donc c'est une ville un peu au nord du pays, où se trouvaient l'apôtre Paul et Barnabas. Et le texte nous dit que Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Quand on dit vive discussion, c'est que ça bardait. Paul n'était pas d'accord. Ils n'étaient pas d'accord. On est sauvé par la grâce. On n'a plus besoin de se soumettre à cela. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils décident finalement de monter à Jérusalem, d'appeler tout un concile avec les apôtres à Jérusalem. Et c'est ce qu'on appelle souvent le concile de Jérusalem. Donc, ils se réunissent pour décider ce qu'il faut faire. Et de nouveau, le verset 7 nous dit, une grande discussion s'engage. Donc voilà, je crois que notre peuple français aurait été bien là, parce qu'on aime bien les discussions, les débats. Donc voilà. Donc ils discutent. La première personne qui s'élève, c'est Pierre. Et Pierre dit, il n'est pas utile de mettre sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter. Pourquoi un joug? Parce qu'en fait, se faire circoncire, c'était je dois maintenant obéir à toute la loi. Elle dit, on n'arrive pas. Et Pierre continue, mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Donc, puisque c'est la grâce, pas besoin d'imposer cela. Toute l'assemblée garda le silence. Puis, on écoute Barnabas et Paul. Et eux, ils racontent tout ce qu'ils ont vécu. Ils avaient fait tout un voyage missionnaire, ils sont allés voir plein de villes, ils ont prêché l'évangile, des églises ont été fondées. Donc, c'est Paul et Barnabas qui prennent la parole en deuxième. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, c'est Jacques, donc un des apôtres, qui prend la parole, et lui, il dit, tout cela semble être en accord avec les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit, c'est Actes 15, 16, après cela, je reviendrai, je relèverai de sa chute la tente de David, j'en réparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, afin que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses. Donc voilà, ici Amos. Traduction, il y a une petite différence de traduction. Pourquoi? Parce que en fait, les Juifs avaient traduit la Bible en hébreu en grec. C'est ce qu'on appelle la version des Septante, parce qu'il y avait, comme les Suisses disent, Septante, donc 70 personnes qui avaient contribué à faire cette traduction. Et c'était une version de la Bible de l'Ancien Testament qui était en usage un peu partout dans le bassin méditerranéen, parce qu'il y avait des Juifs qui avaient un peu oublié l'hébreu, et c'était enfin, cherche le mot, ouais, c'est la diaspora, donc ils étaient un peu partout, et je pense que dans le plan de Dieu, c'était utile, parce que ça veut dire que quand les apôtres ont pu annoncer l'évangile partout, dans le bassin méditerranéen, donc le premier mouvement missionnaire, l'Ancien Testament existait déjà en grec, donc tout le monde pouvait le lire. Donc c'était vraiment encore le plan de Dieu pour que ça existe. Et donc là, Jacques cite la Bible dans cette version grecque qui s'appelle la Septante. Et qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, Amos a déjà annoncé que les nations allaient être incorporé dans le peuple de Dieu. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Ceux sur qui mon nom a été invoqué. Et comme je crois qu'on l'avait dit à l'étude biblique mercredi soir, ou le mercredi avant, la grande différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, l'Ancienne Alliance, Nouvelle Alliance, c'est que dans l'Ancienne Alliance, c'est avec un seul peuple, le peuple d'Israël, et avec condition, si vous obéissez à mes commandements. Alors que la nouvelle alliance, c'est pour toutes les nations du monde, pour que les gens soient sauvés individuellement par la foi, par la grâce, et non pas par l'obéissance. Même si Dieu attend après qu'on cherche à le glorifier, mais on est sauvé par la foi. Donc voilà, après tout cela, Amos pointe le projecteur 7 siècles plus loin que le peuple du royaume du Nord, pour qu'on puisse déjà voir que Dieu est en train de faire son œuvre sur des siècles pour faire aboutir son projet de salut pour l'humanité. Et puis on va terminer avec les quelques versets après, les versets 13 à 15, où il y aura une très grande fertilité. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, où le mou ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël, ils rebâtiront les villes dévastées. Les habiteront, ils planteront des vignes, ils en boiront le vin, ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai dans leur pays et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel, ton Dieu. Je pense, voilà, c'est un tableau de fertilité en quelque sorte. Quand on dit le laboureur suivra de près le moissonneur, ça veut dire que dès qu'il y a une récolte, on recommence, ce n'est pas une fois par an, hein, donc c'est... Ça va être continuel. Celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence. C'est tellement rapide qu'on sème, et puis il y a des grappes, et on voit fouler les raisins. Ce sera une très grande fertilité. Alors, je me suis posé la question, comment faut-il comprendre cela? Et je crois qu'il y a différents niveaux d'application. Un premier niveau, c'est tout simplement le retour de l'exil. Parce que s'il est vrai que le royaume du Nord et le royaume du Sud ont été éloignés tour à tour de cette terre d'Israël. Il y a un retour, 70 ans après le départ, en fait, au mois du peuple du royaume du Sud. Ils sont revenus dans le pays. Deuxième niveau d'application que l'on peut dire, c'est que Dieu nous promet que à la fin du monde, il y aura une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Je vous ai donné 1, 2, 4 références à cela dans la Bible. Déjà dans l'Ancien Testament, Ésaïe. Je vais lire, c'est pas la peine de les chercher, je vais les lire. Ésaïe 65. Car je vais créer de nouveaux cieux, une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Et au chapitre 66, le verset 22. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. Dans 2 Pierre 3, verset 13, nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et de nouvelles terres où la justice habitera, et dans Apocalypse 21, verset 1, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, que le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mort n'était plus. Et dans ce contexte du 21e chapitre et du 22e chapitre d'Apocalypse, on parle du fait qu'il y aura un arbre de vie qui produit 12 fois par an des fruits, rendant son fruit chaque mois dans les feuilles servaient à la guérison des nations. Donc on retrouve un petit peu cette notion de fertilité. Et puis, troisième niveau d'application, c'est le fruit spirituel que nous devons porter. Dans Galates, on parle du fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, la tempérance, etc. Et puis dans Jean 15, que celui qui reste attaché à la vigne portera beaucoup de fruits. Donc tout cela pour dire que dans la prophétie, on peut voir différents stades d'accomplissement. Un premier stade d'accomplissement, c'est le retour dans le pays. Mais ce n'était qu'en vue d'établir un peuple qui soit le berceau du Messie. Donc on voit d'autres niveaux d'interprétation qui vont plus loin. Et finalement, Amos termine, comme Jérémie en parle aussi, sans dire le mot, avec la nouvelle alliance. Donc s'il appelle le peuple à la repentance, ce n'est pas seulement pour eux, mais parce que d'abord et surtout, c'est pour la gloire de Dieu, à la gloire de sa grâce. Encore Éphésiens 1, verset 4, qu'on a lu tout à l'heure. C'est pour que le nom de Dieu soit glorifié. Et c'est là ce qu'il attend de nous. Si on raisonne uniquement, qu'est-ce que ça va m'apporter? On a tout faux. C'est comment est-ce que je peux glorifier Dieu dans ce que je dis, que son nom soit sanctifié et reconnu. Hein, c'est la prière que Jésus nous a enseignée. En tout cas, voilà, on arrive à notre petit périple à travers Amos. On a vu beaucoup de parallèles avec notre situation aujourd'hui, mais surtout, à la fin, on voit que Amos déjà annonce la suite du plan de Dieu dont nous faisons partie. Parfois, je me dis, il aurait été surpris de voir que, voilà, le peuple de Dieu est toujours là. S'il avait su qu'à Paris, 2700 ans après lui, un groupe allait se réunir, éclairé miraculeusement par un truc qui s'appelle l'électricité, enfin, voilà, il aurait été bien surpris, mais pas totalement, parce qu'il voyait déjà le plan de Dieu qui était en route, et nous faisons partie de ce plan de Dieu, et à notre conversion, on rentre dans le plan de Dieu. Alors, la prochaine fois que je prends la parole, on va commencer l'étude de l'épître de Paul aux Philippiens. Et là, on va encore voir son plan. Donc, c'est la suite. Prions. Seigneur, merci parce que on voit dans ta parole que dès le début, avant même la fondation du monde, tu avais prévu le moyen de salut pour ceux que tu allais appeler pour faire partie de ton peuple. Et aujourd'hui, nos cœurs sont remplis de joie à la pensée que nous faisons partie de ton plan, que nous sommes parmi ceux que tu as sauvés par la foi en Jésus, et que ce salut est éternel, et que notre petite église fait partie de ton église universelle partout sur la surface de la terre depuis 2000 ans. Merci Seigneur parce que tu nous as donné ce privilège dans ta grâce de faire partie de ton plan, de faire partie de ton peuple. Au nom de Jésus. Amen.